Faut interdire le stream.
Bon, je crois qu'il est normal qu'on demande aux jeunes filles, surtout lorsqu'elles commencent à être désirables, de...
Quand tu seras capturé, comment tu te sauveras?
Attends, je suis ceinture noire. Mon corps est devenu une arme meurtrière. Je me suis transformée.
Pas de pleurs, pas de fleurs, pas de jalousie. Si tu veux, on se voit une fois par semaine le jeudi.
Sex is for making babies. 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 Sex is for making babies.
Silence des fois, faudrait l'exécuter.
En elle.
Non mais je rêve.
C'est sa féminité.
Ça, je ne veux pas être ta femme, ta bitch, ta boniche. Que tes négros me voient avec toi, tout ça je m'en fiche. Il faut que je te raconte comment chaque fois j'affronte ou dois tenir tête et souvent à coup de pompe. Ceux qui me jugent et très souvent se trompent ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusille des yeux la façon dont je m'habille, me demande si je suis un garçon ou une fille. Veulent dans les détails mon poids, ma taille et le mode d'emploi de mon plan de bataille.
D'horizon mordante.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes dans D'Horizon Mordante, 89.5 FM sur les ondes de Radio Dio. Et donc, voilà, une émission qui a lieu les 1er et 3e mercredi du mois, de 20h à 21h. Et donc, vous pouvez également nous retrouver sur le site Radio Rageuse dans la rubrique D'Horizon Mordante.
Voilà, et ce soir, nous nous sommes intéressés au mouvement social et syndical et à la grève menée par les sages-femmes depuis cet automne 2013. Et alors, on a des invités ce soir pour poser les revendications de ce mouvement, discuter des divergences, porter un éclairage sur l'ensemble de leurs compétences, d'ailleurs étendues en 2009, mais de manière très peu connue du grand public. Donc ce soir, donnons de la place à la colère, au combat des sages-femmes, pour la bonne et simple raison que féministes, nous sommes interpellés dès que actu ou non, il s'agit de soucier du sort particulier fait aux femmes. Les questions féministes sont bien au cœur de cette lutte. Il s'agit bien là, pour des femmes en majorité, de défendre leurs conditions de travail, leur statut social, dans le but de prendre soin du mieux possible d'autres femmes. Je m'arrête là et je n'oublie pas que les porteuses d'utérus aujourd'hui ne se reconnaîtront pas toutes dans la catégorie femmes. C'est important, ce n'est pas anecdotique de les nommer. C'est porteurs, porteuses d'utérus trans, intersexes, lesbiennes, queen. Alors... Quand nous dirons elle ce soir, ce sera bien à elle inclusif de toutes ces personnes qui pourraient trouver auprès d'une sage-femme un accompagnement ou des soins pour une grossesse, une naissance, une IVG, un dépistage, une contraception, l'entrée dans la parentalité, etc. C'est bien là, en effet, balayer de manière rapide l'ensemble des compétences reconnues aux sages-femmes, et pourtant c'est un métier invisible, méconnu. Mais que font-elles donc ? Métier exercé par des femmes en majorité, métier dévalorisé, aïe aïe aïe. Une deuxième mise au point. Nous dirons aujourd'hui « elle » pour nommer les sages-femmes. Bien sûr, il y a quelques personnes de genre masculin, des hommes, qui exercent ce métier. Cependant, la grande majorité des pratiquantes sont bien de genre féminin, des femmes. Alors, je ne ressens pas la même urgence que les académiciens érudits à changer ce nom de métier en maïoticien ou maïoticienne, d'autant que la féminisation des noms de métiers traditionnellement masculins n'a pas déclenché la même urgence du côté de l'académie. Un petit clin d'œil cocasse, le mot femme dans sage-femme ne se réfère pas aux pratiquantes, mais aux personnes que ces soignantes accompagnent. Je suis convaincue que les quelques îles incluses dans ce L n'en seront qu'honorées de l'être inclus. C'est parti.
Ouais, merci. Alors, juste avant de le lancer, le zapping, je vous en parle deux secondes. C'est donc un zapping qu'on a repris de Canal+. Et donc, c'est, voilà, comme son nom l'indique, le zapping rapide des petites brèves d'infos. Donc, sur la thématique de la grève des sages-femmes. C'est parti.
On pense plutôt infirmière ou puéricultrice. Mais ici, ce sont bien des sages-femmes. Un métier finalement mal connu du grand public, souvent résumé qu'à un seul geste.
Très simplement, ça sortait le bébé de la maman. Voilà, pour faire très simple.
Pour le suivi après la grossesse, les frottis, le suivi gynécologique, on n'est pas bien informé.
Le 16 octobre, une première rencontre entre une délégation de sages-femmes et le ministère de la Santé a eu lieu. Les représentants de la profession sont sortis déçus de cette discussion, constatant que les sages-femmes n'ont pas été inclus au projet de loi sur la santé prévu pour l'an prochain.
Pour y remédier et informer, les sages-femmes ont donc décidé de se mettre en grève pour se faire connaître. Dès lundi, 80% des 79 sages-femmes de l'hôpital seront en grève illimitée.
Comme une trentaine de ses collègues, cette sage-femme au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie s'est mise en grève.
À la maternité de Château-Thierry, le mouvement est largement suivi. Elles ne veulent plus d'un salaire indexé sur la grille paramédicale.
Au fur et à mesure des années, on nous a reconnus en tant que compétences médicales, voilà, et les salaires n'ont pas vraiment suivi.
Pour César, né il y a quelques minutes, les gestes sont techniques. Cette semaine, Pauline a donné la vie à plus de 30 bébés. Et pourtant...
On n'a pas d'énormes badges, vous voyez ? Gréviste.
Elle est en grève illimitée pour faire valoir ses compétences et surtout ses charges. Elle est responsable de l'enfant à naître et de la maman avant, pendant et après l'accouchement.
On souhaite aussi changer de statut à l'hôpital parce qu'aujourd'hui on est classé dans les paramédicaux au lieu d'être dans les médicaux.
Pas de place pour la sage-femmerie.
Symboliquement, le personnel réalise encore les accouchements, mais n'effectue plus les actes administratifs. Une grève que comprend la direction.
Bien entendu, je souhaite que le mouvement se termine le plus rapidement possible. Je suis certain que la qualité des soins ne sera pas affectée.
Les sages-femmes sont en colère.
L'idée consiste à bloquer peu de temps les voies de circulation. Peu de temps, mais souvent et dans différents endroits. C'est ainsi que la cinquantaine de sages-femmes mobilisées pour ce nouveau coup de semonce a créé une belle pagaille dans le périmètre de la préfecture.
Les sages-femmes dans la rue. Depuis le 16 octobre, elles sont nombreuses dans les maternités à suivre ce mouvement national, comme ici à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron.
Sages-femmes, métier formidable, un statut formidable. Tout est résumé dans cette action coup de poing, un soir de forte affluence sur les routes. Retour de vacances de la Toussaint oblige.
Ça fait un an et demi maintenant que Madame Touraine est au ministère et elle ne nous reçoit pas.
Elles espèrent se faire entendre lors d'une grande marche nationale prévue le 7 novembre prochain.
Et à votre tour, hein, vous lancez un ultimatum.
Là, globalement, ça fait 3 semaines maintenant, elle ne s'est absolument pas prononcée. Hier, à l'Assemblée nationale, elle a été interpellée.
Monsieur le Premier ministre, les sages-femmes sont en grande souffrance. Pourtant, à ce stade, Madame la ministre de la Santé et des Affaires sociales n'a pas daigné les recevoir personnellement. Le 13 novembre prochain... Les sages-femmes seront reçues au ministère.
Le 13 novembre, c'est une date qui est prévue depuis longtemps et c'est pour travailler sur le salaire actuel et les grilles indiciaires actuelles. Nous, c'est la profession qui est partie dans ce mouvement.
Que doivent-elles faire pour être entendues ? S'habiller en footballeur, comme l'ont fait en vain celles de Chambéry, le jour où le président de la République a reçu les footballeurs ? Et demain, soutenues par des chefs de service de maternité, plus de 20 000 d'entre elles manifesteront.
Une autre colère, celle des sages-femmes.
Elles sont descendues dans la rue à Paris.
On peut penser que si la profession comptait que des hommes, eh ben, y aurait un salaire plus élevé qu'aujourd'hui.
La preuve, c'est qu'on continue à nous dire si vous êtes sage-femme, c'est parce que vous n'avez pas pu être médecin.
200 hommes. Oui. Sur 20 000 sages-femmes.
Oui. On se pose la question, si la sage-femme avait été une profession de genre masculine, peut-être que le statut aurait été autre que ça.
Allez, gauche. Sur place, rouge.
En colère.
Mais non, t'es un sage homme, toi.
En colère, sage femme, en colère.
Un nouveau statut ! On veut être reconnu !
Pourquoi le combat des blouses roses, on en entend si peu parler ?
Tout simplement parce que une sage-femme en grève, bah c'est une sage-femme qui travaille.
En arrivant à la maternité, on ne peut pas les rater. Quatre tentes plantées là par des sages-femmes. C'est leur nouvelle action pour se faire entendre.
Cela fait de nuit que les sages-femmes se relaient ici. Un moyen visuel d'attirer l'attention et ce n'est pas terminé.
Sommes-nous paramédicales ?
Non !
Qu'est-ce qu'une sage-femme ?
Médicale, médicale.
Médicale, médicale, uniquement médicale. Marisol, on le dit, on veut pas de compromis.
Il n'y a aucune volonté politique pour l'instant, on n'a pas avancé du tout. Les groupes de travail, on ne sait pas où ça nous mène. On se dit qu'ils veulent peut-être nous attendrir jusqu'à Noël en disant ça va s'essouffler. C'est pas parti comme ça pour nous.
Nous, sages-femmes de Thonon-les-Bains, refusons que les intersyndicales parlent au nom de notre profession. Nous soutenons les revendications du collectif de sages-femmes.
Et voilà, un petit zapping donc concocté par Canal+, que je vous ai un petit peu retaillé, écourté pour garder le meilleur. Et donc pour aborder ce soir la thématique qui nous réunit, donc les sages-femmes en grève. Mais qu'est-ce qui se passe ?
Et du coup, peut-être pour commencer, moi je vais poser un peu ce que j'ai compris des revendications du mouvement. J'ai compris qu'il y avait un désir de reconnaissance d'un statut social, d'un niveau d'études, un désir de meilleure rémunération. Qu'il y avait aussi une forte demande d'une reconnaissance de l'ensemble des compétences en hospitalier comme en libéral. Et là, du coup, j'ai essayé de voir qu'est-ce que c'était que les compétences et qu'est-ce que c'était que le métier de sage-femme. Et rapidement, juste sur déjà les compétences cliniques, je vais faire une petite liste et c'est assez impressionnant. Et après, il y a tous les aspects plus transversaux, scientifiques, etc., que je ne vais pas dire, mais déjà les aspects cliniques de prévention ou d'urgence, etc. Conduire une consultation prénatale, organiser et animer une séance collective de préparation à la naissance et à la parentalité, assurer une consultation d'urgence pour des douleurs abdominales au troisième trimestre, diagnostiquer et suivre le travail, réaliser l'accouchement, diagnostiquer et prendre en charge l'hémorragie de la délivrance, pratiquer l'examen de la mère et du nouveau-né, réaliser une consultation de contraception et de suivi gynécologique de prévention, réaliser une réanimation néonatale du nouveau-né. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs et nos auditrices savent tout ça, mais il me semble que c'est assez méconnu. Après, j'ai aussi entendu parler de cette idée de praticienne de premier recours, de praticienne hospitalière. Du coup, ça, on a bien envie que vous nous expliquiez ce que c'est, parce que ce n'est pas si évident à comprendre. Voilà, je vais vous laisser la parole.
Eh bien oui, puisque nous ne sommes pas seuls dans les studios, c'est-à-dire Winnie et moi-même, Pob, on est là pour discuter avec nos invités. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à la technique, puisque c'est Sandrine et Sam qui sont aux manettes ce soir, merci. Et donc voilà, peut-être on peut vous laisser vous présenter un petit peu vite fait avant de commencer.
Donc bonsoir, Sabine, je suis sage-femme libérale et je travaille également à l'hôpital à mi-temps dans une maternité de niveau 1, voilà, dans la région stéphanoise.
De niveau 1, tu peux nous dire
de
un peu ?
De niveau 1, alors, il y a plusieurs types de maternité. Le niveau, donc c'est 1, 2, enfin, il y a 1, 2, 2B, 3. Ça correspond au niveau de soins en fait et au nombre d'accouchements, souvent c'est corrélé, hein, le nombre d'accouchements réalisés. Donc la maternité de niveau 1, ça va être une maternité où il va y avoir un petit nombre d'accouchements. Moi, la mienne par exemple, on fait un petit peu moins de 1000 accouchements par an. Et le niveau de soins par rapport à la pédiatrie, c'est-à-dire qu'on peut avoir une néonatologie, il peut y avoir des soins intensifs néonato ou une réanimation néonatale. Donc nous, le niveau 1, c'est le plus bas niveau de soins. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service d'hospitalisation de pédiatrie. Voilà. Okay.
Donc moi, c'est Nadia. Je suis aussi sage-femme hospitalière dans une maternité de niveau 1 aussi qui fait 900 accouchements. Et je suis là pour vous parler de mon métier qui me passionne et qui n'est pas assez reconnu.
Et moi, je suis Sabine, je suis la troisième sage-femme, du coup, et je travaille à l'hôpital aussi, en niveau 1 aussi.
Voilà. Super. Vous n'êtes pas au cœur de la pathologie, quoi. Vous êtes... Enfin, si, un peu.
Mais il y en a.
Il y en a plein, oui. Non, mais je veux dire, après, ça se passe aussi bien, les accouchements, à des moments. Ça peut...
Oui,
c'est pas forcément un truc... On va à l'hôpital, mais c'est pas non plus parce qu'on est malade, quoi. Ça peut aussi être...
Très bien
passé. De manière un peu simple.
Oui, enfin, simple. Complètement.
C'est relatif.
Voilà. Donc du coup, maintenant, je ne sais pas si vous voulez un peu réagir un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu qu'est-ce que c'est les revendications du mouvement, dans quelle lutte avant il s'inscrit, parce que j'imagine que ça n'a pas paru en octobre 2013, comme ça, par miracle.
Non, ça va, ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça. Déjà, pendant nos études, on essayait de changer le statut et d'accéder à quelque chose un statut plus médical. En sachant qu'on a des compétences médicales, mais par contre, au sein de l'hôpital, on est classé avec les paramédicaux et avec les infirmières. Mais on garde toujours, quand même, notre compétence médicale, c'est-à-dire qu'en cas de problème, de procès, on est convoqué, quoi, au même titre que le médecin, c'est-à-dire qu'on a autant de responsabilités que le médecin dans l'histoire. Voilà.
Et les compétences médicales, ça veut aussi dire que vous êtes des prescriptrices?
Exactement, on est prescriptrices, ouais, complètement, et on est responsable de ce qu'on fait. Voilà. Contrairement aux paramédicaux, que je respecte énormément, que j'aime beaucoup, mais voilà, eux, ils vont réaliser des gestes que les médecins ont prescrits, alors que nous, on va faire des gestes qu'on a prescrits nous-mêmes. Voilà. Et on est responsable de ce qu'on fait.
Vous avez un niveau de diagnostic, en fait, aussi, on peut dire.
Complètement.
Du coup, d'évaluation de la situation dans un domaine de compétences. C'est peut-être ça qu'on ne connaît pas très bien dans le métier des sages-femmes. Hein. C'est un peu les accoucheuses mystérieuses, quoi. Hein. Et puis, du coup, voilà, on ne sait pas trop où se situe l'action. Alors, tu as fait une liste tout à l'heure, mais peut-être vous pouvez nous peut-être aborder quels sont les enjeux, finalement, pour vous dans la pratique, parce que c'est de ça dont il s'agit quand il s'agit de changer de statut, finalement.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'une sage-femme, c'est vraiment la femme qui s'occupe des femmes. Donc, que ce soit tout le suivi gynécologique, donc même les femmes non enceintes sont nos patientes. Et à partir du moment où un accouchement est physiologique, donc il n'y a pas du tout d'apparition de pathologie, on est complètement autonome du début à la fin.
Donc, peut-être tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce que tu appelles par physiologique ?
Oui, on va dire que c'est le déroulement naturel sans incident d'un accouchement. Donc on peut avoir aussi un accouchement dit physiologique quand il y a au départ quelque chose qui est un facteur de risque, mais qui est géré de manière différente et de manière autonome par nous, mais que tout se déroule relativement bien pour qu'on ne rentre pas dans les critères d'appel d'un médecin. Il faut savoir qu'en salle de naissance, quand là on cible vraiment sur l'accouchement, ou même dans les consultations, quand il y a des choses qui sortent de ce cadre de, entre guillemets, normalité, même si c'est un terme un petit peu abusif, mais bon, voilà. On a toujours comme référent les médecins. Donc c'est vraiment nos partenaires dans la santé des femmes.
Et du coup, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a un mouvement de grève en automne 2013?
Je crois que ça vient d'un ras-le-bol général. Donc il y a vraiment une situation sous-jacente depuis de longues années où on a vraiment l'impression qu'il y a une invisibilité totale d'une sage-femme. Donc c'est effectivement le mystère de la sage-femme, autour de la sage-femme. Et par rapport à des revendications qui sont syndicales pour le salaire ou surtout pour les gens sachent qu'ils peuvent venir nous consulter et avoir affaire à nous, notamment dans la gynécologie qui est devenue une de nos compétences. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui savent que la référente peut être une sage-femme.
Et est-ce qu'il y a un peu des différences, je pense que par exemple là il y a une sage-femme qui exerce en libéral, des sages-femmes hospitalières, peut-être un peu les deux. Qu'est-ce qui est un peu différent ou comment ça se complète aussi dans ce que vous exigez au niveau des revendications? Quelles seraient celles qui seraient plus sur le versant libéral? Quelles seraient celles qui sont plus sur le versant hospitalier?
Alors, du coup, que ce soit sur le versant hospitalier ou libéral, c'est par rapport à la notion de premier recours. Dans nos revendications, donc nous, on demande à être reconnus comme praticiens de premier recours, c'est-à-dire que toutes les femmes, en fait, de la puberté à la ménopause, puissent venir en première intention nous consulter, nous, soit dans le cadre d'une grossesse, donc ça va plutôt être à l'hôpital, soit dans le cadre d'un suivi gynéco. Donc c'est vrai qu'en libéral, ça va peut-être plus s'adresser vis-à-vis, en termes de suivi gynéco, si vous voulez, et puis en termes de suivi de grossesse, voilà. Ce qui n'était pas le cas avant, enfin, c'est-à-dire que là, une patiente, elle ne sait pas qu'effectivement, elle peut aller voir une sage-femme, elle va aller voir un gynéco si elle a besoin d'un frottis, d'une prescription de pilule, Voilà. Alors que nous, ce qu'on demande, c'est qu'elles puissent venir vers nous. Et après, si effectivement on dépiste une pathologie, comme on disait, on est tout à fait apte au diagnostic d'une pathologie. Après, on n'est pas apte à la traiter. Mais du coup, on va la diagnostiquer et renvoyer du coup vers un médecin gynécologue qui pourra, lui, à ce moment-là, traiter. Voilà. Et juste pour revenir sur un truc qui me semble hyper important par rapport à la responsabilité médicale, comme tu disais, Sabine, tout à l'heure, nous, vraiment, dans les textes de loi, au niveau du Code de la santé publique, on est vraiment une profession médicale à part entière, comme les médecins, comme les dentistes, comme les pharmaciens. Il n'y a vraiment qu'à l'hôpital qu'on est considéré ou traité, entre guillemets, comme des paramédicales où on va nous demander de faire des choses, voilà, et surtout on va être dans les grilles inclus avec les paramédicaux, donc les infirmières, les kinés, enfin voilà, on est sur ces mêmes grilles de salaire là, et du coup nous ce qu'on demande c'est de sortir de cette grille là et d'être reconnu avec...
Oui, il y a un double enjeu de la reconnaissance en fait. C'est autant pour vous en termes de statut et de rémunération et de place au sein des équipes hospitalières et puis en dehors. Et puis par rapport aux femmes aussi en général, dans la connaissance et dans la possibilité de vous interpeller.
Qu'elles aient ce choix. Voilà.
Et je voulais juste rajouter que là, beaucoup de femmes que je vois en début de grossesse, par exemple, me disent « Bon, bah, je vais retourner voir mon médecin généraliste pour qu'il me fasse ma décla et puis qu'il me voit. » Alors en fait, il y a des doublons de consultation. Elles pensent vraiment que la sage-femme, c'est pas un professionnel de santé vraiment à part entière. Quoi.
C'est une conseillère, quoi.
Oui, elle sait. Voilà, exactement. Elles ne savent pas trop où nous ranger, en fait. Ouais. Donc du coup, elle va voir quand même son médecin généraliste pour être sûre que, alors qu'on peut totalement faire la déclaration de grossesse comme le médecin généraliste, d'une part, et deuxièmement, je trouve que ça fait énormément de dépenses pour la Sécu, quoi, inutile en fait. Donc j'aimerais que le ministère de la Santé informe les gens correctement et qu'ils sachent réellement où nous mettre et qu'il n'y ait pas des doublons comme ça faits au niveau de la sécurité sociale en fait.
Oui, il y a besoin d'une information plus conséquente en fait auprès des patients et du public en général en fait.
Complètement.
Est-ce que vous avez envie de rajouter un peu quelque chose là-dessus? Parce que moi, je vous proposerais bien de s'écouter un petit... Allez, vas-y.
Simplement pour dire que cette place, au final, au départ, on ne l'a pas revendiquée. C'est-à-dire que l'accès à la gynécologie, elle a été dépendante de la pénurie de médecins gynécologues. Et il y a souvent cet amalgame qui est fait entre grossesse et maladie. C'est pour ça que tout de suite, on a envie de référer les femmes à des médecins. Or, à partir du moment où il n'y a pas d'apparition de pathologie, nous, on est capable de gérer des situations, on va dire, basiques, et surtout parce qu'on nous l'a demandé. Et on nous l'a demandé, on rentre, on joue le jeu, on vient dedans, et là, on nous le reproche. En tout cas, on n'assume pas les responsabilités, enfin, on ne nous...
On vous accorde pas les responsabilités qui vont avec, en fait. Exactement. Puisque vous avez la compétence, il y a ce besoin collectif de prise en charge qui est présent, et puis, et en même temps, vous n'avez pas, du coup, les responsabilités qui vont avec, quoi.
Et effectivement, disons que la responsabilité, on l'a, mais c'est plutôt, je dirais, le parcours de soins qu'on n'a pas. C'est-à-dire que les femmes ne le savent pas, en fait. C'est plutôt ça. Mais la responsabilité, à mon avis, on viendra nous chercher s'il y a un problème. On a toujours eu ce rôle-là, les femmes de tampon et de venir nous chercher quand il y a un souci. Ça c'est un grand rôle chez la sage-femme.
Il y a peut-être des reconnaissances qui se font petit à petit, aussi des responsabilités, ne serait-ce que pour lire un résultat, par exemple. Il y a certains résultats, je pense... au résultat des bah après peut-être on en reparlera après, mais je pense à l'IVG par exemple. Vous avez la compétence de faire des déclarations de grossesse et de suivre les grossesses, mais pas d'accompagner les femmes sur les IVG alors qu'il s'agit aussi de grossesse et que vous avez les compétences du coup qui fonctionnent dans les deux sens, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on pourra y revenir. Après, c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, la loi de 2009 a reconnu des compétences sur la gynécologie générale aux sages-femmes. Et effectivement, les pouvoirs publics ne mettent pas d'énergie et de financement dans la diffusion au public de cette nouvelle légalité ou de ces nouvelles compétences reconnues et existantes. C'est pas connu. Et en plus, c'est assez intéressant. Finalement, c'est une loi assez intéressante parce que aussi, ça peut sortir ces dépistages de la pathologie, ça sort peut-être le suivi de grossesse de la pathologie et ça la remet dans ce qui est la vie, quoi, tout ce qui va bien, quoi, parce que finalement, une grossesse peut très bien se passer sans incident. Et voilà pourquoi ce serait médical, enfin, par un médecin, quoi. Médical du côté d'une sage-femme qui est dans le non-pathologique, quoi, finalement.
Exactement. C'est exactement ça, à savoir que Quoi qu'il en soit, on a affaire à de la pathologie, mais justement, on se rôle de dépistage, de détection pour une orientation meilleure. Et là, on a l'impression qu'on saute notre étape, donc c'est ça qui est un peu dérangeant.
Alors moi, je vous propose d'écouter une sélection parmi pas mal de sons et de clips que vous pourrez retrouver sur Internet, puisque du coup, là, on va peut-être rentrer un peu plus dans qu'est-ce que c'est que cette grève et comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que de faire la grève en milieu hospitalier. Et donc là, moi, j'avais envie de vous proposer de s'écouter Fetal Bazooka, qui est donc un clip qui a été réalisé en maternité, comme de nombreux autres clips incroyables. C'est un des moyens de lutte qui a été emparé par les équipes de sages-femmes pour parler d'elles, se rendre visible, faire un peu exister aussi ces grèves dans les maternités. Voilà, alors on va s'écouter donc Fetal Bazooka. Le titre, c'est Plus de sages-femmes cool.
Nous, sages-femmes de Thonon-les-Bains, refusons que les intersyndicales parlent au nom de notre profession. Nous soutenons les revendications du collectif de sages-femmes.
Vous
là-haut,
c'est Fetal Bazooka.
Fetal Bazooka.
Quand y en a marre qu'on n'écoute pas,
bon.
Qu'une chose à faire là, écoute ça.
Présente les sages-femmes du Léman en direct de la Haute-Savoie.
Savoie ou bien?
Non, ça va pas. Meuf, c'est le bordel, ça accouche avec ou sans cri. Je réanime des enfants pour les rendre à la vie. Je suture et gère toutes les hémorragies, toutes les consultes et la téléphonie. Alors écoute, avant qu'il soit trop tard, avant qu'on se décide à foutre un
fichre bazar.
12 heures sans pisser, sans manger,
j'ai trop les boules.
Je suis crevé en colère, je déverse mon soul.
Plus de sages-femmes cool, plus de sages-femmes cool. Si on vient pas, qu'on est pas là, les bâtelles cool. Plus de sages-femmes cool, ouais, plus de sages-femmes cool. Toujours gentil, toujours docile, là on est full. Plus de sages-femmes cool, on a les boules. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sent la houle. Plus de sages-femmes cool, ouais, plus de sages-femmes cool. Même si ça saoule, même si ça saoule. Ouais, dis-leur toi aussi qu'on est plus funky en direct des salles d'actes de Thonon.
Dans ma masse, on accouche trop bien. Les parturientes dilatent dans le bain et on mène des périambulatoires. Pendant le travail, elles ont aussi le droit de manger.
C'est possible.
Si on respecte la physiologie. Franchement, cher les dents depuis trop longtemps. Car en plus des consultations d'allaitement, il y a aussi l'hypnose et puis les échographies. La culportage, c'est notre poésie.
Eh, mais oh, tu t'égares, ils s'en foutent de ce que tu dis.
Qu'est-ce qu'il y a, toi, tu m'engraines?
Non, mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois.
Plus de sages-femmes cool, plus de sages-femmes cool. Si on vient pas, qu'on est pas là, les matelles cool. Plus de sages-femmes cool, ouais, plus de sages-femmes cool. Toujours gentil, toujours docile, là on est fou, là on est fou. Plus de sages-femmes cool, on a les boules. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sent la houle.
Boule,
plus de sages-femmes cool, ouais, plus de sages-femmes cool. Même si ça saoule, même si ça saoule.
Je voudrais jeter un blâme pour cette maladie qui franchement m'irrite. Une MST au ministère qui joue la fuite. Mais désormais, je te le dis, plus de sages-femmes cool.
Après 7 semaines de grève dans l'indifférence générale, pour être respectueux, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on foute? Faut tout
oublier,
tout faire péter. Plus de sages-femmes cool, plan de périnage, on n'est même pas consulté. Depuis autant les 700
pourri.
Pas étonnant, 40 ans qu'on nous oublie. J'aurais pu mettre un bonnet rouge en footballeuse, mais c'est moins cool
que ce putain de slogan. Plus de sages-femmes cool, plus de sages-femmes cool. Si l'on vient pas, qu'on est pas là, les matelles cool.
Les matelles cool,
plus de sages-femmes cool, ouais. Plus de sages-femmes cool. Toujours gentil, toujours docile, là on est fou.
Là on est fou.
Plus de sages-femmes cool, on a les boules. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sent la houle.
On sent la houle.
Plus de sages-femmes cool, ouais. Plus de sages-femmes cool. Même si ça saoule.
Même si ça saoule.
Même si ça saoule.
Même si ça saoule.
Plus de sages-femmes cool. Plus de sages-femmes cool.
Ouais, là c'est spécial, FD.
Plus de sages-femmes cool, ouais. Plus de sages-femmes cool.
En tout cas, y'en a marre d'être méprisé.
Plus de sages-femmes cool. Plus de sages-femmes cool.
Des compétences augmentées, profession médicale oubliée.
Plus de sages-femmes cool. Plus de sages-femmes cool.
Maintenant, prends note de notre révolte.
Bang, bang. Plus de sages-femmes cool. Plus de sages-femmes cool. Si on vient pas, qu'on est pas là, les matelles cool. Plus de sages-femmes cool, ouais. Plus de sages-femmes cool. Toujours gentil, toujours docile, là on est foule.
Tout le monde.
Plus de sages-femmes cool.
Tout le monde.
On a les boules.
Tout le monde.
Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on sent la houle.
Et oui, donc Fetal Bazooka, du coup, vous l'avez compris, elles ont les boules, ils ont les boules. Ça fait plusieurs mois que ça dure et ça n'a pas l'air de décoller grandement. Hein, je ne sais pas où on en est au niveau de l'actualité, du changement des statuts, tout ça. Peut-être vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe, une grève en milieu hospitalier ou même ailleurs, du coup en libéral. Comment vous visibilisez ça Parce que nous, on a fait un peu un état des lieux là et on était assez voilà, emballée par plein de formes assez chouettes et créatives de ces luttes, quoi, par les clips, les occupations devant les maternités, les grosses manifestations nationales, les communiqués de presse, voilà, les... bon, ça c'est classique, mais y a plein de formes que ça prend.
Alors c'est vrai qu'on bosse dans l'humain, ça c'est avant tout, je crois, ce qui fait la différence. Donc à partir du moment où on veut revendiquer notre colère, on ne peut pas prendre en otage nos patients. Donc ça, c'est déjà la base de notre réflexion. On se dit, ben, c'est sûr que ne plus être en salle d'accouchement, donc ne plus faire les naissances, ce qui a été essayé et ce qui n'est pas bien à notre sens, parce qu'on met les gens en danger et ça ne sert à rien qu'il y ait des gens qui périssent pour que nous, on ait un statut un peu plus reconnu. À partir de ce moment-là, ben, les pressions qu'on peut faire, c'est essayer d'avoir une visibilité. Et pour ça, donc, ces moyens ont été employés pour justement essayer de mettre, alors on va dire, une forme de visibilité sociale plus qu'une pression réellement sur les gens, afin de continuer à faire notre métier qu'on aime, malgré tout.
Oui, de faire comprendre votre rôle, finalement, et la place que vous avez à obtenir, en fait.
Alors, par contre, je voulais juste préciser que le fait, justement, d'avoir essayé d'enlever les sages-femmes de salle d'accouchement pour essayer, justement, de durcir la grève, etc., moi, j'ai trouvé, au contraire, que ça avait été quand même très courageux de la part de cette équipe, parce que c'est très... Enfin, on a fait la grève pendant 2 mois en étant hyper respectueuse des gens, en étant toujours là, etc. Et les sages-femmes qui ont commencé à se dire « Bon, bah là, on n'est même pas écoutés, il n'y a rien qui bouge, etc. On va être obligés de partir des salles d'ac. » Ça a été des décisions hyper difficiles à prendre. Et moi, franchement, je leur rends hommage à ces sages-femmes parce qu'elles ont été malades, vraiment, d'en arriver là, quoi. C'était vraiment hyper dur. Et je pense que c'est grâce à elles que, justement, on a pris en compte ce mouvement. Parce que là, effectivement, on s'est dit « On va se retrouver sans sages-femmes en salle d'ac. » Là, c'était la panique, c'est clair. Donc voilà, moi je voulais quand même leur rendre hommage à ces sages-femmes parce que je pense que ça a été très difficile pour elles d'en arriver jusque là.
Oui, parce que c'est pas juste tenir la main des gens, quoi. C'est une vraie présence de suivi, que ce soit du début à la fin, voilà, médical et... aussi, quoi.
Puis on aime ce qu'on fait, on est passionné par notre boulot malgré tout, donc c'est vrai que ça a été très éprouvant pour plusieurs collègues, enfin voilà, que j'ai pu avoir au téléphone dans ces moments-là, elles étaient vraiment pas bien, quoi.
Mais c'est vrai que ça montre, excuse-moi, hein, je te laisserai bien la parole, ça montre que gynécologue, obstétricien et sage-femme, c'est pas spécialement un métier interchangeable. Hein,
ben oui, ils n'ont pas remplacé, mais ils n'ont pas pu, ça n'a pas été possible de nous remplacer.
ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a été poussés, on arrivait là. Oui. Notre postulat de base, c'était pas du tout de rentrer dans ce genre de lutte. Et effectivement, on n'a pas toutes eu le courage d'aller jusqu'au bout parce que ça changer plein de choses, même au niveau personnel. Enfin, c'est une réflexion vraiment qui est difficile à prendre, une décision qui est pas simple du tout. Mais effectivement, ça a été aussi un coup de pouce qui a fait qu'ils se sont dit « Ah mais ok, il faut qu'on fasse quelque chose. » Parce qu'au-delà du fait que les gynécologues ont été, on va dire, pris en otage pour devoir faire notre boulot, les infirmiers aussi, et là, ils se sont dit « Mince, finalement, il y a une réelle différence entre le boulot d'un paramédical que le boulot d'une sage-femme. » Parce qu'il y a vraiment une manière d'aborder les soins qui est totalement différente, puisqu'il y a cette autonomie.
Moi, ce que je trouve assez surprenant dans ce que vous racontez, c'est le fait que à l'intérieur même du milieu hospitalier et du milieu médical, il y a une méconnaissance de vos compétences et de votre travail, en fait. Parce que dans la société, que les personnes concernées ne sachent pas votre travail, comment ça se passe, pourquoi et comment elles peuvent faire appel à vous, c'est une chose. Mais que les équipes avec lesquelles vous travaillez... n'identifie pas réellement quel est votre travail, c'est un peu surprenant, mais peut-être que c'est pas si surprenant que ça quand on voit, enfin en tout cas ça explique les réponses, enfin les communiqués que nous on a lus de certains positionnements d'obstétriciens par exemple, qui alarment aussi parce qu'on a l'impression qu'on leur pique le morceau du gâteau, enfin je sais pas, il y a un truc quoi, entre les professions, il y a un enjeu, il y a une concurrence qui a l'air vraiment forte en fait.
Le pire dans tout ça, c'est qu'on réclame pas plus de responsabilité, on en a suffisamment, on veut juste qu'on nous reconnaisse notre place. Donc on est en train d'essayer de prendre le bout de gras à personne. On est juste en train de dire, ok, ça c'est notre territoire, c'est ça qu'on a l'habitude de faire et pour lequel on est formé, laissez-nous le faire et surtout, sachez qu'on le fait.
Alors vous pouvez retrouver peut-être, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller dans les détails sur cette émission, mais en tout cas moi je vous invite à faire un petit tour sur YouTube et taper Clip Sage-Femme, Grève, il y a aussi pas mal de Facebook, de sites où il y a des communiqués de presse, les revendications, j'ai pas fait un tour des blogs ou des choses un peu peut-être plus accessibles, mais voilà, sachez que pour aller dans le détail un peu de ce que tu dis là sur ce que c'est déjà votre travail actuellement, il y a de l'info ailleurs. Voilà.
Peut-être que vous aurez des adresses à nous donner en fin de la mission aussi, peut-être pour orienter bien nos auditrices et nos auditeurs. Et du coup, est-ce que vous voulez compléter un peu ce qu'on a donné un peu comme info au niveau des revendications et des choses importantes à dire sur le métier de sage-femme, etc. Et peut-être qu'il y avait une lettre que vous vouliez souhaitiez lire aussi, il me semble. Peut-être vous laisser. Ouais. Ou voilà, si vous voulez déjà compléter un petit peu ce qui manque.
Juste repréciser notre niveau d'études, qui est aussi méconnu, parce que souvent, quand on dit vous êtes des infirmières ou des infirmières spécialisées, on n'est ni l'un ni l'autre, on n'est pas des médecins non plus, on est des sages-femmes et on a 5 ans d'études pour y arriver avec la première année de médecine, donc une formation qui à la base est médicale, mais on n'est pas médecin. Et là c'est la nuance.
Voilà, juste préciser aussi qu'on fait bien 5 ans d'études et qu'on est quand même reconnu actuellement Bac+3, ce qui est complètement aberrant. C'est aussi pour ça qu'on fait la grève, pour qu'on ait une vraie reconnaissance des années effectives d'études. Et puis, on va toujours tourner autour de ça, on va dire que je suis vénale, mais le salaire qui va avec, parce que du coup, on est rémunéré à hauteur d'un Bac+3, donc 1 600 € net par mois en début de carrière. Voilà. Et 7 € quand on fait des nuits aussi, voilà, accessoirement. Voilà.
Et surtout à savoir que les places en maternité sont difficiles parce qu'on manque de postes et que pour obtenir un CDI, donc une prise d'échelon, donc une augmentation du salaire, c'est excessivement difficile. Certaines d'entre nous bossent depuis 6, 7 ans et c'est toujours pas le cas.
Oui, vous donc, avez des conditions de travail assez limites quand même. Après, ça, c'est le milieu hospitalier en plus qui est particulièrement bancal, ouais, qui est aussi précaire. Hein, la fonction publique, c'est pas non plus la garantie du top de des conditions de travail, quoi.
Tout à fait.
Je vais vous faire part d'une lettre qui a été écrite par une sage-femme hospitalière, Caroline Rénich, à ses confrères gynécologues. Chers confrères gynécologues, à l'heure où l'accès à la santé se complique, les femmes sont les premières touchées, particulièrement celles en situation de précarité. Une femme sur 5, entre 25 et 50 ans, n'a pas bénéficié d'un frottis de dépistage depuis 5 ans. 46% des femmes ne bénéficient pas du dépistage du cancer du sein. 12% des 18-24 ans n'ont pas de suivi gynécologique. Une grossesse sur 3 n'est pas désirée. Une femme sur 3 a eu ou aura recours à l'IVG. 20% des accouchements ont lieu par césarienne, quand les recommandations de l'OMS préconisent de rester sous le seuil des 15%. 50% des femmes n'ont pas de consultation postnatale, 75% pas d'entretien prénatal. La consultation préconceptionnelle reste une exception. Devant ce constat, il faut l'avouer peu brillant, et dans un contexte où les délais de rendez-vous en gynécologie attiennent couramment plusieurs mois, nous, sages-femmes, proposons une solution concrète, rapide à mettre en œuvre, peu onéreuse à déployer. Mettre nos compétences au service des femmes, leur faire connaître, ainsi qu'à tous les professionnels de santé concernés, nos capacités à assurer la gynécologie de prévention et l'obstétrique physiologique, afin d'améliorer l'accès à un suivi, à une contraception, au dépistage des IST et des cancers, pour toute femme concernée. Être identifiée comme praticien de premier recours, une de nos revendications principales, pour laquelle 70% d'entre nous sont en grève depuis 3 mois déjà. Au vu des récents communiqués de presse publiés par le Saint-Gof, et par l'intersyndicale des praticiens hospitaliers. Vous pourriez sembler douter, chers confrères, de nos capacités à participer à ce suivi. Nous tenons donc à vous rassurer. La gynécologie fait partie depuis plusieurs décennies de la formation initiale des sages-femmes, avec un poids particulièrement renforcé depuis le programme de 2001. Avant même que la loi ne confirme nos compétences dans ce domaine, en 2004, puis de façon élargie en 2009, nous étions déjà préparés. Saviez-vous, chers confrères, que le volume horaire consacré à la contraception pendant les études de sage-femme est supérieur à celui des internes de gynécologie obstétrique ? Vos études sont plus longues, certes, mais spécialisées à partir de la 7e année, contre la 2e année pour les nôtres. Si vous pouvez en 5 ans d'internat vous former à l'ensemble de la prise en charge ou de la pathologie et l'art chirurgical, n'y a-t-il pas apparence qu'en 4 ans, nous puissions maîtriser la physiologie, la prévention et le dépistage dans les mêmes domaines ayant le même niveau de recrutement que vous, puisque nous avons gagné notre entrée dans notre cursus à l'issue du même difficile concours ? Vous mentionnez dans un de ces communiqués l'exemple de certaines sages-femmes dont les patientes auraient souffert de complications liées à la pose d'un DIU, dispositif intra-utérin. Permettez-nous en aparté de vous rappeler, chers confrères, que nous sommes comme vous, sous l'égide d'un ordre professionnel, auprès duquel les éventuels abus doivent être dénoncés afin de protéger au mieux l'intérêt des patientes, comme nous n'hésitons pas à le faire lorsque nous constatons des abus de médecins.
Mais revenons à ces pauses de DIU. À en croire la littérature scientifique, le taux de complications médicales, quoique faible dans le cas des DIU, reste en partie incompressible et inhérent à la réalisation d'un acte médical. Pourquoi reprocher aux sages-femmes un aléa commun à tous les praticiens ? À moins que vous ne disposiez d'une étude comparative entre sages-femmes et médecins pour ce geste. Car la médecine moderne doit se baser sur des preuves statistiques et non sur des cas isolés. C'est d'ailleurs pour apporter notre contribution à cet ensemble de preuves et en améliorer la pertinence au service des soins que nous demandons pour les sages-femmes hospitalières un statut, celui de praticien hospitalier. Commun, comme vous ne le savez tant aux médecins qu'aux chirurgiens dentistes et aux pharmaciens, permettant aux cliniciens un accès à la recherche et à l'enseignement, sans devoir, comme actuellement, choisir nécessairement entre les trois voies. Comme les autres professions médicales, nous voulons participer à l'évolution des connaissances. En gynécologie comme en obstétrique, les champs d'études sont si vastes qu'il n'y aura jamais trop de chercheurs, vous en conviendrez bien sûr, chers confrères. Ce fameux statut de praticien hospitalier, PH pour les intimes, semble également vous effrayer. Vous craignez, dites-vous, une déstructuration des équipes. Rassurez-vous donc, à l'heure actuelle dans les maternités, des PH gynécologues obstétriciens, des PH pédiatres, des PH anesthésistes coordonnent leur travail avec celui des sages-femmes. Si demain les sages-femmes sont également PH, en quoi l'effort quotidien de toute une équipe sera-t-il modifié par la présence autour du couple mère-enfant de 4 PH au lieu de 3 ? Comment n'atteindrait-il pas la même qualité, puisque quel que soit notre statut, nous sommes tous avant tout des professionnels intègres, faisant passer l'intérêt de nos patientes avant tout conflit interne. En espérant, chers confrères, avoir apaisé un peu vos craintes et vos appréhensions quant à la qualité des soins prodigués à nos patientes communes, je me permettrai toutefois de finir sur un reproche. Toutes ces informations sont dans les documents de travail et les contributions que nous vous avons non seulement mis à disposition, mais même directement communiquées dès le début de la grève, voire depuis plusieurs années via l'ensemble de nos syndicats et associations représentatives. Ainsi, avant de vous présenter à des groupes de travail ministériels et surtout avant de publier et diffuser des communiqués de presse qu'un esprit chagrin pourrait qualifier d'injurieux, il aurait été de bon ton et de bonne confraternité de les consulter. Enfin, n'en parlons plus, je sais bien à quel point vous êtes débordés et je me réjouis de penser que nous pourrons, dès les prochains mois et grâce aux négociations actuellement en cours, partager avec vous cette charge de travail. Maintenant que vous avez en main toutes les informations nécessaires, vous aurez compris que nous ne demandons pas d'augmentation de nos compétences, mais les possibilités d'exercer celles que nous maîtrisons dans les meilleures conditions, dans le respect mutuel entre les professionnels impliqués au service des femmes françaises.
Yeah, merci. Alors peut-être tu peux nous redire qui était l'auteur de cette lettre.
Donc c'est Caroline Rénich, une sage-femme hospitalière.
Ok, super. Ben voilà, ça résume bien du coup le fait que cette lettre elle soit vraiment adressée aussi aux professionnels médicaux. Et du coup, on comprend bien qu'il y a un enjeu de hiérarchie, de statut, de compréhension réciproque d'argent et de compréhension réciproque de qui fait quoi et qui accompagne qui, tout ça.
Et en plus, on comprend énormément. Moi, il me semble que le cœur de démotivation des sages-femmes, c'est de prendre du mieux possible soin des femmes, il me semble, dans ce texte.
C'est vraiment ça, surtout que là, en 2014, il y avait un projet donc, pour discuter de la périnatalité, dans lequel beaucoup de fonctions, de métiers étaient regroupées. Et alors qu'on est au cœur de la vie et de la santé des femmes, les sages-femmes n'étaient pas conviées. Donc je crois que c'est aussi ça qui a un peu fait déborder le vase, parce que on se rend compte que alors que c'est notre milieu d'évolution journalier, on ne nous consulte même pas quand il s'agit de discuter de ce qui va se passer en périnatalité.
Et alors ça me permet peut-être de faire une petite transition, parce que bon, du coup on va avoir du mal à tenir le temps, mais moi j'ai envie de vous proposer d'écouter une reprise qui a aussi beaucoup été une chanson bien reprise dans les maternités, mais cette fois-ci c'était pas par rapport aux sages-femmes mais à l'ensemble du coup de la question des maternités et d'une maternité particulière, la maternité des Lilas. Et voilà, je pense à ça parce que par rapport à ce que tu dis de ne pas être consulté, il y a vraiment un truc un peu fou, c'est qu'à l'inverse, vous demandez plus d'autonomie et que toute cette logique d'aller vers des maisons de naissance et puis de questionner aussi la surmédicalisation, hein, tout ça, ça amènerait aussi peut-être tout simplement à développer ces maisons de naissance et puis de laisser l'autonomie aussi aux sages-femmes. Voilà, c'est pour ça que je trouvais qu'on pouvait peut-être s'écouter... la chanson Les Lilas, Lilas Goûter.
Le site du Terman, enfin je suis bien arrivée, je cherchais une matière en or.
Enfin j'ai fini par trouver. En plus elle n'est vraiment pas loin. Je suis même venue à pied. On dit qu'accoucher c'est pas rien, donc faut être bien accompagné. Pas vrai? Où sont les lilas? Dites-moi où sont les lilas? Sans même devoir leur parler, ils savent ce qui ne va pas. Ah sacré Lila, dis-moi où es-tu cachée? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes pas. Hey!
Où t'es Lila, où t'es? Où t'es Lila, où t'es? Où t'es Lila, où t'es? Où t'es, où t'es, où Lila, où t'es? Où t'es Lila, où t'es? Où t'es Lila, où t'es? Où t'es Lila, où t'es? Où t'es, où t'es, où Lila, où t'es?
J'hallucine, où ils ont disparu. Hier à peine ils étaient tous là. Et aujourd'hui que sont-ils devenus? Le plan était bouclé, le terrain réservé, une équipe surmotivée. Dites-moi qui a bloqué ces gens formidables? Hein, dites-moi qui? Tiens, tout le monde sait faire naître des bébés, mais eux le font avec humanité. Monsieur Evin en aurait peut-être douté, c'est ça. Il serait peut-être temps que j'accouche moi, mais je veux pas m'en aller. Ça fait bien plus de 9 mois que je veux accoucher là, hey.
Où t'es Lila, où t'es? Où t'es Lila, où t'es? Où t'es Lila, où t'es? Où t'es, où t'es, où Lila, où t'es? Où t'es Lila, où t'es? Où t'es Lila, où t'es? Où t'es Lila, où t'es? Où t'es, où t'es, où Lila, où t'es?
Alors, on avait prévu de faire un petit point historique qu'on va pas pouvoir du coup aborder, même si peut-être Sabine, tu as envie de nous dire quelques éléments, parce que il y a déjà eu des luttes, des choses qui ont été obtenues, des lois qui ont changé. Là, vous demandez des nouvelles choses. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu justement ce qui s'est passé les années précédentes, et puis peut-être.
Puis c'est même pas des nouvelles choses. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous vous demandez à ce qu'on fasse connaître votre métier dans toutes ses compétences et qu'il soit reconnu dans toutes les compétences que vous avez. C'est ça que j'ai compris. Mais...
Oui, en fait, je crois que c'est ça. En fait, on était avant, on était un peu les sorcières, les matrones au fin fond de notre forêt, et on était tranquille, voilà, sans demander rien à personne. On travaillait assez seul, etc. Et je crois que malheureusement, ça fait partie de notre métier. On a encore un peu comme ça, et du coup, on protège pas du tout notre domaine de compétences. On se retrouve dans cette situation aujourd'hui parce qu'on a jamais protégé notre domaine, en fait, tout simplement. Du coup, on en arrive à un point où on se dit, mais voilà, dans peu de temps, et ben, on va disparaître, en gros, voilà, parce que. Comme dans, par exemple, dans le continent américain, il n'y a plus de sages-femmes. Il n'y a que des sages-femmes traditionnelles, indiennes, etc. Mais autrement, à l'hôpital, ça n'existe pas. Il y a des infirmières et des gynécos. Et il y a certains pays où il y a 98% de césariennes, quoi. Donc, pourquoi pas, hein, je veux dire, pourquoi pas devenir infirmière spécialisée, mais avec les conséquences qui vont avec, quoi. Voilà. Il n'y a plus d'accouchement voix basse. Voilà, ça n'existe plus. Parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même métier. Les médecins, ils nous le disent, quand ils vont faire des remplacements en clinique, ils disent mais c'est long mon accouchement, mais oh là là, mais c'est long, mais moi j'ai envie de mettre un forceps ou une ventouse, ou voilà, ils ont pas l'habitude, c'est pas le même métier, quoi, y a rien à faire. Nous on est capable d'attendre une demi-heure que le bébé sort, de les encourager, d'être avec elles, de les connaître pendant plusieurs heures, de savoir jusqu'où on peut aller avec elles, etc. Les médecins souvent ils sont là pour agir quand ils sont là, quoi, pour agir pour la patho. Donc une demi-heure pour eux c'est le bout du monde, quoi.
Je crois qu'en plus, dans la tête des gens, la sage-femme, elle est guidée par son côté intuitif. T'es une femme, tu comprends les femmes. Donc déjà, il y a des hommes dans notre profession, n'oublions pas. Et en plus, c'est au-delà de ça, c'est plus qu'une connaissance de la femme et de son corps. Alors après, on a un rôle aussi pour justement renforcer cette féminité et justement réassurer les femmes dans leur propre corps. Elles sont capables de le faire. Nous, on est juste là pour assurer une sécurité et les aider quand ça se passe mal. Mais je crois que ça nous a beaucoup desservi, en fait, parce que maintenant, il y a un aspect vraiment scientifique et intellectuel de la profession qui est complètement mis de côté. Et ça, c'est recouvert d'une patience extrême, parce qu'effectivement, on sait qu'il faut qu'on adapte notre aptitude pour être là pour les femmes et pas pour décider que cette femme, à telle heure, elle aura accouché. Que voilà. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment se développe au sein de l'expérience, et puis c'est une qualité personnelle aussi qu'il faut avoir, mais qu'on ne retrouve pas forcément et qui est très étonnante par rapport aux gens. Il dit, mais t'as fait un accouchement cette nuit, mais c'est pas possible, t'as fait quoi le reste du temps? un accouchement, c'est pas 5 minutes. C'est tous les soins qu'il y a autour, tout le soutien qu'on peut apporter.
Voilà.
Voilà.
Ouais, très bien. Bah, c'est vraiment super. Et peut-être qu'on peut rapidement revenir. Nous, on avait envie de. C'est vrai qu'on avait envie de revenir sur une partie un peu historique. On s'était dit qu'on voulait parler un peu des sages-femmes dans les mouvements, un peu par exemple de libération des femmes, les mouvements de lutte pour l'avortement, la contraception en particulier, où il semble qu'elles étaient un peu absentes. Il y en avait quelques-unes, mais elles n'étaient pas très nombreuses. Et on se demandait un peu maintenant que. Enfin, j'ai vu qu'il y avait eu une tentative de passer un décret en 2009 pour que les sages-femmes puissent prescrire des IVG médicamenteuses. Mais en fait, ça s'est pas passé. Il a été retiré, cet amendement. Et par contre, dans la loi, ce que j'ai compris, c'est que les sages-femmes peuvent participer à une IVG. Ça, c'est réglementaire. Elles peuvent faire des entretiens psychosociaux. Elles peuvent faire des entretiens de conseil conjugal aussi et familial, avec des formations adaptées. Et du coup, je avais envie de vous interpeller sur ça aussi.
Par rapport du coup à l'IVG, oui, c'est, je pense qu'on a été présente pendant longtemps, avant que l'IVG soit légalisée, etc. Je pense que les sages-femmes y participaient. Donc pourquoi pas, oui, effectivement, avoir par exemple la responsabilité des IVG médicamenteux, ça me semble assez logique, ouais. Voilà.
Oui, parce qu'en fait, les IVG médicamenteux, on est sur un registre de compétences qui est complètement dans votre domaine, en fait, et qui fait partie intégralement du type de soins que vous faites, alors que du coup, il ne vous est pas laissé, tout simplement.
Oui, puis je voulais revenir aussi sur quelque chose, sur par exemple, tout à l'heure, vous disiez la gynéco, on vous a donné la compétence à la gynéco. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, on nous a donné la compétence à la gynéco parce que les gynéco-obstétriciens, contrairement à nous, protègent beaucoup leur domaine. Voilà, mais la gynéco, ça a toujours fait partie de notre formation et ça a toujours fait partie de notre domaine de travail. Et,
oui, c'est au cœur de votre domaine de travail, plutôt, voilà, c'est complètement. Le centre, quoi.
Donc,
Mais finalement, 2009, c'était une reconnaissance de compétences effectives.
Oui, c'est plutôt ça, en fait. Et c'est souvent comme ça avec les HVM, mais on va y arriver, on va s'organiser, on va commencer à protéger plus notre domaine de compétences, peut-être.
Tu voulais prendre la parole, peut-être, aussi.
Oui, juste dire que, historiquement, même si ce n'est pas clairement défini, souvent, lorsqu'une femme voulait mettre fin à une grossesse qui n'était pas désirée, donc on ne passait pas par un protocole médicamenteux comme maintenant, on avait affaire aux faiseuses d'anges. Et les faiseuses d'anges, c'était des sages-femmes, en grande partie. À partir du moment où on est rentré dans les couvents, donc les sages-femmes étaient des sœurs, c'est aussi dans ces milieux-là que se réalisaient les IVG. Très paradoxalement, alors c'est un peu généralisé, hein, il y avait plein d'autres manières, mais ça faisait déjà partie des compétences de certaines sages-femmes qui en faisaient le choix. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour accueillir qu'une naissance désirée, on était aussi là pour accueillir des femmes qui ne désiraient pas devenir mères. Encore une fois, on est là pour soutenir le savoir des femmes, et ça peut faire partie de leur vie. Et maintenant, on est justement en train d'essayer de officialiser, on va dire, cette place si c'est notre choix, et c'est là que c'est dur, parce qu'on peut être là dans un accompagnement. Encore une fois, il y a l'amalgame qui est fait souvent, on parle d'IVG médicamenteuse. À partir du moment où il y a un geste chirurgical, ça, pour nous, effectivement, on ne dit pas que c'est notre place. Et souvent, on dit, mais attendez, vous prenez pour des médecins à vouloir faire des IVG. Pas toutes les IVG, mais les IVG médicamenteuses.
Ouais. Peut-être vous auriez à nous communiquer un peu des idées que vous auriez pour que le métier de sage-femme soit mieux connu. Enfin, comment les femmes, du coup, peuvent s'adresser à vous? Est-ce qu'elles prennent le beau temps et du coup elles vous trouvent en libéral, par exemple?
Mais oui, complètement. Internet, elles me trouvent très facilement. Le beau temps, le trouve facilement.
Disons que nous, en tant que profession médicale, on n'a pas le droit de faire de la publicité. Donc déjà, on est limité de ce côté-là. Mais effectivement, en ouvrant le beau temps, oui, elles nous trouvent.
Pour tout ce qui est justement suivi qu'on appelle gynécologique. Hein, parce qu'il y a cette idée de je veux un suivi gynécologique tout au long de la vie. Et du coup, je vais voir le gynécologue, qui lui est l'obstétricien, qui s'occupe plutôt des situations un peu plus extrêmes ou difficiles.
Qui va faire de la gynéco, mais qui va régler la patho gynéco, quand il y a un souci de cancer du sein, de cancer du col, de n'importe quel autre problème gynéco, que nous, on ne fera pas du tout, effectivement, puisqu'on n'est pas médecin.
Alors que le suivi quotidien, on pourrait dire,
frottis.
Excusez-moi, j'ai eu un petit
trouble
de la... Voilà, que cette méconnaissance-là, elle fait que les gens ne vont pas vers vous, mais que ça peut être très simple, puisque du coup, on a une idée déjà que vous êtes en milieu hospitalier, mais même peut-être en milieu hospitalier, c'est possible de demander d'obtenir des consultations. Et puis, en milieu libéral, du coup, il y a des cabinets où il suffit de prendre rendez-vous, comme on prendrait rendez-vous chez le médecin ou chez le gynécologue. Voilà, j'avais envie de préciser ça.
Et d'ailleurs, ça commence de plus en plus. On a des patientes aussi bien à l'hôpital qu'en libéral qui nous demandent, voilà, qui demandent à avoir un suivi avec une sage-femme, ce qu'on voyait pas trop avant, parce que ben, elles ont entendu que c'était possible. Et donc ça vient, ça arrive.
Ah oui, et puis rapidement. Je voulais dire aussi, oui, très rapidement, il y a eu toute une étude en fait qui a été faite au niveau financier et surtout au niveau compétences. Et il a été révélé par cette étude, si vous voulez, qu'une femme qui est suivie par une sage-femme en fait aura moins de risques de développer une pathologie, etc., et de bien accoucher que si elle est suivie par un médecin. Voilà. Mmh. Alors, c'est pas du tout pour mettre en conflit avec le médecin, c'est pas du tout ça.
C'est pour réaffirmer du coup,
mais plutôt dans le sens où les sages-femmes en fait observent, regardent, écoutent, surveillent et agissent pas forcément en fait, attendent de voir comment ça se passe. Voilà. Et souvent, et ben, ça se passe mieux quand les femmes font les choses toutes seules.
C'est la Cochrane. C'est pas n'importe quelle. C'est quand même une référence. C'est sûr aussi. Voilà.
Alors peut-être pour se quitter, est-ce que vous avez un des sites, des adresses à nous donner pour que les personnes peut-être vous soutiennent en signant des pétitions, en faisant connaître votre lutte, voilà.
Oui, voilà, cette étude, c'est sur le site de la Cochrane, qui est du coup quand même une référence pour nous dans le milieu de l'obstétrique, parce que bon, il y a tout un tas d'études qui peuvent être plus ou moins biaisées. Hein. Enfin voilà, celle-ci. Donc ça peut être intéressant d'aller voir. Et après, plutôt pour nous soutenir.
Oui, c'est ça, parce que du coup, c'est une lutte encore d'aujourd'hui.
Donc il y a une pétition à signer sur Internet. Donc vous mettez pétition grève sage-femme. Et vous pouvez signer une pétition pour nous soutenir. Sinon, bah, effectivement, en mettant clip maternité, vous retrouverez notamment sur YouTube plein de choses. Et sur Facebook aussi, il y a une page en soutien au mouvement national de grève des sages-femmes. Donc, c'est aussi un biais.
Alors, on va se quitter. On est pile poil à l'heure. Hein. On n'est pas encore en retard, finalement. Voilà, l'émission Boogie presse à la porte. On va s'écouter une chanson. Alors, qu'est-ce que vous préférez, Anaïs ou Jiedré?
Les deux nouveaux.
Alors, bon.
J'y aiderai.
Allez, Aude à la contraception. Un mot de la fin, c'est le moment.
Soutenez-nous.
On est là pour vous. Venez avec nous. On sera plus nombreuses. Montez avec nous à Paris. Si derrière chacune de nous, il y avait toutes nos femmes, toutes les femmes qu'on a portées, qu'on a aidées, bah, ça nous aiderait beaucoup.
Du monde, ouais. Ouais. Alors, donc, nous, on se retrouve dans 15 jours, hein, d'Horizon Mordante, un mercredi sur deux, donc le premier et le troisième mercredi du mois. Et puis, une émission musicale, dans deux semaines, avec Sam aux commandes, une émission yéyé. Et donc, aussi, vous pouvez nous retrouver sur Radio Rageuse, dans la rubrique d'Horizon Mordante. Et alors, on s'écoute Jiedré, c'est ça. Vous allez voir, c'est bien.
On peut les étouffer, on peut les brûler, on peut les congeler. Mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive les capotes, vive les stérilets, vive la pilule du lendemain, vive la méthode du retrait. On peut les percer avec une aiguille à tricoter, on peut les jeter contre un mur, on peut les mettre aux ordures. Mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive la fellation, vive la sodomie, mesdames, la ménopause a ses bons côtés aussi. Il y en a qui les vendent, qui les envoient en Thaïlande, mais même sans chercher si loin, en Belgique, ils font ça très bien. On peut les empailler comme déco pour la cheminée. On peut les dépecer pour sauver les grands brûlés. Mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive vive les capotes, vive les stérilets, vive la pilule du lendemain, vive la méthode du retrait, vive la fellation, vive la sodomie.